Territoire sensible du corps, AFCMD et éducation somatique. Un podcast pour découvrir ou approfondir les apports des éducations somatiques et de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.
Imaginaire des mots,
globalité,
extérieur, intérieur,
jeu,
lâcher prise,
relation, relâchement, sol, gravité,
connexion,
liberté,
articulation,
mobilité,
ligne,
espace,
vocabulaire.
Redécouvrir les territoires sensibles du corps est une formation proposée par le pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle, PREAC Danse Nomade de Nouvelle-Aquitaine, qui s'est déroulée en avril 2024 à Poitiers. Au cours de ces trois journées, les stagiaires ont pu vivre différentes expériences. Une masterclass avec Calixto Neto, danseur et chorégraphe brésilien. Une sieste poétique proposée par Stéphanie Pichon, journaliste et co-directrice du projet Books on the Move. Ainsi qu'un atelier sur les savoirs somatiques et l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, AFCMD. Romain Panassier, danseur contemporain, notateur du mouvement et spécialiste en AFCMD, est intervenu durant ces deux journées de pratique. C'est à partir de ses propositions d'atelier, mais aussi des échanges qui ont suivi avec lui, que s'est constitué ce podcast. Une production ressource pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur l'AFCMD et les éducations somatiques.
Ces temps de formation sur deux jours permettront aux stagiaires d'expérimenter par la pratique des principes extraits de diverses approches en éducation somatique, développés par Mathias Alexander, Moshe Feldenkrais, Bonnie Bambridge-Cohen, Irmgard Bartenieff, Emily Conrad, de relier savoir somatique et scientifique par une démarche en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, et d'intégrer progressivement ses connaissances incarnées dans sa propre démarche artistique pour un travail de création et ou de transmission. Deux jours qui s'articuleront autour d'une présentation de plusieurs pratiques dites somatiques, de leurs créateurs ou créatrices, et de leurs influences dans le domaine artistique et pédagogique. Des ateliers en mouvement, abordables par tous et toutes, en lien à diverses méthodes ou techniques en éducation somatique, et une organisation du corps dans le mouvement. Apport théorique et exploration pratique, anatomie fonctionnelle, biomécanique, physiologie, théorie des chaînes musculaires ou faciales, etc. Puis un temps d'échange et de repérage pédagogique en vue de l'intégration des notions abordées par les participants.
Vous venez de l'entendre, Romain, lisant la note d'intention de la formation. Sa voix va vous guider au fil du podcast, tout d'abord dans une introduction qui a pour but de clarifier les disciplines, AFCMD, puis éducation somatique, mais aussi le lien qui existe entre elles. Un préambule pour que chacune, chacun puisse comprendre les enjeux de ces approches au service de la danse et des danseuses, danseurs. Ensuite, vous l'entendrez interagir avec les stagiaires, les guidant dans une pratique d'atelier, étayée par les principes de l'AFCMD et les notions de certaines éducations somatiques. Ces mises en situation pratiques, travail sur les épaules, sur la double direction, sur le toucher. Autant d'exemples pour comprendre comment ces disciplines, AFCMD et éducation somatique, favorisent la redécouverte des territoires sensibles du corps. Vous aurez l'occasion aussi d'écouter les remarques énoncées à l'issue des ateliers de la part des stagiaires. En effet, ces moments de pratique font surgir des sensations, et ces retours d'expérience sont d'usage lors de moments d'exploration et sont un élément clé de la démarche en AFCMD. Pour conclure, Romain évoquera quelques conseils de lecture pour aller plus loin après avoir pris le temps de faire du lien entre l'AFCMD, les éducations somatiques et la danse, ou comment réinvestir ces approches dans la danse. Qu'est-ce que l'AFCMD ? Cette discipline enseignée en France aux danseuses, danseurs à partir de la fin du XXe siècle. Quelles sont les principales éducations somatiques, leurs origines ? En quoi se rejoignent-elles et comment le dialogue s'instaure entre AFCMD et éducation somatique ? Romain vous plonge dans les fondements de ces approches pour partager avec vous son quotidien. Que dit le dictionnaire de la danse quand on cherche la définition de l'AFCMD ?
Dans le dictionnaire de la danse de Philippe Lemoal, on trouve la définition de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, un article écrit par Nathalie Schulman. Donc l'article dit ceci : l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, AFCMD, est une discipline favorisant la compréhension et l'intégration des mouvements en danse. Elle se constitue en corpus spécifique en France à partir des années 1990.
Quelles sont ses origines ?
Elle se nourrit des travaux des grands pionniers et théoriciens du mouvement tels que François Delsarte, Rudolf Laban, Émile Jacques Dalcroze, et des concepteurs de pratiques corporelles à visée éducative ou thérapeutique, comme Mathias Alexander, Gerda Alexander, Irmgard Bartenieff, Bonnie Bainbridge-Cohen, Moshe Feldenkrais, Elsa Gindler, Faye Ellis, Lulu Swigard ou Mabel Todd. Ce corpus s'enrichit également des apports de la biomécanique, de l'anatomie fonctionnelle, de la neurophysiologie et des résultats de diverses études qui, de la chronophotographie aux images de synthèse, ont permis de saisir et de mieux appréhender la cinétique du mouvement dans sa complexité par une segmentation analytique de sa dynamique propre.
Quels sont ces apports pour la danse ?
L'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé offre une approche à la fois esthétique et fonctionnelle de la danse, complémentaire au travail habituel du danseur, du pédagogue et du chorégraphe. Elle vise à atteindre une plus grande objectivité dans l'analyse des différents styles. Prenant en compte l'individu dans ses relations à l'environnement au sens large, elle cherche à isoler des processus, à caractériser les spécificités et à établir un langage commun permettant de présenter les différents points de vue théoriques et pratiques de la danse.
Comment intervient-elle ? Quels sont ses principes ?
Sur le plan didactique, elle développe un protocole somatique faisant appel à une perception sensible et fine des processus du mouvement. Par des exercices, des improvisations, la pratique du toucher ou de la visualisation, elle amène à une prise de conscience des schèmes de coordination déterminant chaque style dans sa particularité. Mettant ainsi en évidence les interactions entre la fonction tonique et la fonction symbolique de la posture, elle permet d'analyser ce que l'œil ne peut capter d'emblée. Mouvement interne invisible, intentionnalité, projet de mouvement. Elle peut aussi prévenir certains risques liés à une pratique corporelle poussée à l'extrême par un travail d'harmonisation individualisé et un entraînement approprié. Une de ses priorités est de faire acquérir au danseur une plasticité qui lui permette d'évoluer et de s'adapter tout au long de sa carrière aux fluctuations dues aux facteurs internes, fatigue, vieillissement, etc., et aux facteurs externes, conditions de travail, collaboration avec différents chorégraphes, etc., en évitant les attitudes pathogènes.
Quels sont les fondateurs de la discipline en France ?
En France, Hubert Godard et Odile Rouquet sont à l'origine de l'essor de cette discipline. Avec des approches différentes, tous deux proposent d'étudier les facteurs concourant à l'élaboration, la conduite et le contrôle du geste en danse. Hubert Godard, danseur et thérapeute en rolfing à l'origine, responsable du département danse de l'Université Paris 8 Saint-Denis, donne une place prépondérante à la conscience de l'étayage postural qui précède le mouvement, qu'il nomme pré-mouvement, phase préliminaire qui, pour lui, conditionne l'expressivité du geste. Il propose, à partir de la dynamosphère, le concept de gestosphère, comprenant l'ensemble des liens physiques, perceptifs et symboliques qui unissent un individu à son environnement. S'appuyant sur une expérience de danseuse et chorégraphe, Odile Rouquet s'intéresse aux différentes organisations corporelles et aux changements de perception qui les accompagnent. Pour elle, ils sont liés au vécu personnel et signent une expressivité et un style de danse particulier. C'est la connaissance de cet élan postural qui donne des appuis aux danseurs pour aller au bout de leur mouvement. Son travail est influencé par celui d'Irene Dowd, les lignes de mouvement, et de Bainbridge-Cohen, les systèmes supports. Elle collabore avec des danseurs virtuoses à l'interprétation du répertoire et avec des pédagogues, notamment avec Wilfried Piollet, pour l'élaboration de la méthode d'échauffement conçue par celle-ci.
Quelle est l'originalité de la FCMD ?
S'appliquant au-delà de la danse à des domaines aussi variés que le théâtre, le chant et la pratique instrumentale, l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé s'enrichit des apports constants des différentes sciences exactes et humaines et évolue selon les champs où elle s'exerce. Avec cette définition, on comprend qu'en AFCMD, on cherche à ne pas créer de hiérarchie entre les savoirs empiriques des danseurs qui se transmettent de manière orale à l'intérieur du studio de danse, et les savoirs scientifiques qui vont porter un regard peut-être plus objectivant sur le corps en mouvement. Il s'agit plutôt de créer de la circulation entre ces deux types de savoirs. Et puis, il faut comprendre que pour certaines personnes, commencer par avoir des appuis théoriques va permettre d'accepter de se lancer dans l'expérience sensible, dans l'idée de venir interroger ses propres perceptions pour ouvrir de nouveaux potentiels de mouvement. Et inversement, pour d'autres personnes, passer d'abord par l'expérience va permettre d'accéder à des savoirs plus objectivants, plus théoriques, Surtout lorsque ces savoirs théoriques passent par une volonté de les incorporer, par une recherche de trouver des chemins sensoriels qui soient en accord avec ces supports théoriques. Il ne faut pas oublier que dans le monde de la danse, les danseurs apprennent d'abord par l'expérience, par la pratique, par le faire. Et donc, par ce chemin de la pratique et de l'expérimentation, on peut donner accès à des notions plus théoriques et plus abstraites à des personnes dont ce n'est pas forcément la première entrée.
Pratique et savoir théorique s'articulent donc au sein des ateliers proposés en AFCMD. Avant d'en entendre des exemples concrets, extraits des deux journées d'atelier, intéressons-nous aux éducations somatiques, à leurs fondements, grâce à une conférence d'Odile Rouquet, prononcée le 7 janvier 2002 à l'IRCAM, à la demande de François Raffineau. Transcrite dans un article édité par le CESMD de Poitou-Charentes en 2004, dans le numéro 2 de Balise. Romain en lit un extrait pour nous permettre de comprendre comment sont nées ces différentes techniques.
Et donc, elle fait part de sa perplexité dans cet article par rapport à cette demande de parler de l'ensemble des techniques d'analyse du mouvement, qu'on appellerait plutôt aujourd'hui techniques d'éducation somatique. Et ce mot « éducation somatique », on le doit à Thomas Anna, qui était à la fois philosophe et praticien de la méthode Feldenkrais, à partir de laquelle il a aussi créé sa propre méthode. Et c'est ce terme « éducation somatique » ou « technique somatique » ou « approche somatique » ou encore « savoir somatique » qui a été repris par des chercheurs et chercheuses, notamment par Sylvie Fortin à l'Université de Montréal ou encore Isabelle Gineau à l'Université Paris 8. Et elle dit « Si j'essaie de vous traduire par une image le pourquoi de ma perplexité, elle serait celle-ci. Imaginez qu'on vous remette entre les mains un coffret étiqueté « technique d'analyse du mouvement » et une fois ouvert, vous en verriez sortir des myriades de papillons tous différents en apparence. Comment les décrire en une heure de temps sans déflorer leur essentiel ? En laissant se déposer cette proposition, une idée m'est venue. Pourquoi ne pas tenter de rendre palpable ce qui les fait cohabiter ? Rendre plus présent l'air qu'il respire. Un peu plus loin dans l'article, il y a une partie qui s'intitule « Regard sur l'émergence des techniques d'analyse du mouvement ». Et dans cette partie, Odile Rouquet explique comment, pour la plupart des fondateurs de méthodes d'éducation somatique, c'est une interpellation personnelle qui les a fait questionner leurs propres habitudes et leur propre entraînement. Par exemple, Gerda Alexander se battait contre de l'arthrite rhumatoïde, Faye Helles contre une pleurésie, Mathias Alexander avait eu une extinction de voix, Moshe Feldenkrais souffrait d'une grave blessure au genou. Ces techniques naissent alors d'une nécessité vitale en quelque sorte. Donc ce sont des techniques qui facilitent un apprentissage, mais aussi des techniques qui questionnent. Quelque chose de nouveau émerge d'une confrontation avec un événement qui bouscule ce qui semble habituel, ce qui semble évident, ce qui s'est toujours fait, qui fait partie de notre définition du monde, de notre perception du monde. Et Odile Rouquet rapproche cette démarche des fondateurs des méthodes somatiques, finalement de la démarche de l'artiste, qui fait exactement la même chose par rapport à la société dans laquelle il vit. Elle insiste également sur leur terrain commun à tous ces créateurs. Ces papillons ont donc bien leur couleur à eux, et en même temps, des couleurs qui s'entrecroisent, car leur problématique est issue de l'air du temps, car souvent les mêmes idées naissent en même temps à cause des conditions favorables à leur enfantement. Chercheurs et praticiens se répondent. La visualisation, l'imagerie mentale se retrouvent chez Moshe Feldenkrais, mais aussi chez Lulu Swigard dans l'idéokinésis. Elle est aujourd'hui confirmée par les recherches scientifiques sur le système nerveux grâce aux stimulations d'aires précises du cerveau. Le principe d'inhibition de Mathias Alexander peut aussi se rapprocher de celui de réversibilité de Moshe Feldenkrais. Leurs explorations sont donc spécifiques et à leur terrain personnel et à leur époque. Les disciples ont fait que ces idées se sont répandues, se sont enrichies, ont rencontré des milieux divers. Bien-être de la personne, prévention des maladies, par exemple Joseph Pilate en parlait ainsi, handicap non pris en charge par la médecine et bien sûr le milieu de la danse.
Quelles sont les notions en danse qu'Odile Rouquet met en relation avec les éducations somatiques dans sa conférence ?
Plus loin dans l'article, Odile Rouquet insiste sur le fait qu'elle considère la danse comme une transformation d'état. Et dans ce sens, elle insiste sur plusieurs principes. Tout d'abord, la notion d'incorporation. Et pour cela, elle prend l'exemple du sketch de Raymond Devos qui descend du LEM, et elle dit « Comment Raymond Devos, dans son sketch sur la descente du LEM, passe-t-il de son état bien en chair en état d'apesanteur ? Comment s'y prend-il pour changer de peau ?» Intention imaginaire et kinesthésique vont jouer de pair pour transformer l'état de corps. Raymond Devos s'affuble de bretelles qu'il accroche au bas de son pantalon. Les jambes lui poussent alors légères et se suspendent entre terre et ciel, créant ainsi un effet d'apesanteur. Une autre notion sur laquelle insiste Odile Rouquet est la notion d'intentionnalité, l'idée de danser en pensant. Se donner une intention avant de bouger, s'y tenir, permet d'interférer avec une habitude de mouvement. Se donner une intention, porter son attention dessus, puis laisser faire la transformation, ne pas interférer avec cette intention demande confiance, agilité de la pensée et aussi rapidité de concentration. En renouvelant à chaque phrase dansée l'intention, le danseur s'oblige à se rendre présent à ce qu'il est en train de faire. Et cela lui donne une présence intense, car il risque la transformation. Wilfried Piolet appelle cela, pour son travail, les barres flexibles. Cette attention à une intention donne une contrainte, et c'est la contrainte qui permet le changement. Moshe Feldenkrais invente dans ses leçons toute une série de contraintes physiques qui obligent ainsi à explorer un nouveau chemin. Ainsi, les techniques d'analyse du mouvement interpellent sur la façon dont on voit le mouvement, comme un artiste interpelle le monde par sa création artistique. Elle redonne autorité à la personne sur son agir sur le monde, et ce n'est plus un savoir venant de l'extérieur, mais une interaction avec ce qu'elle reçoit du monde, une capacité de lire son vécu et ce qui la fait vibrer en rapport à l'extérieur.
À la lecture de ces deux textes essentiels pour s'approprier les fondements, enjeux et démarches de ces disciplines, il apparaît évident que la redécouverte des territoires sensibles du corps peut s'opérer par le prisme des éducations somatiques et de la FCMD. Les informations délivrées par Romain au fil des ateliers, les propositions d'exercices et les retours des stagiaires qui vont suivre en sont des exemples concrets. Vous pourrez les entendre en écho à des explications, commentaires et analyses proposées par Romain, mais aussi tout d'abord au regard de l'article de synthèse « À la découverte du corps » issu du premier livre d'Odile Rouquet, dont Romain s'est inspiré pour construire cette formation.
La découverte du corps, tout un programme. En effet, le corps humain est un vaste océan de données anatomiques, mécaniques, physiologiques et bien d'autres encore, toutes liées les unes aux autres. Nous connaissons tous les tensions musculaires provoquées par un blocage psychologique. Comment ne pas s'y perdre tout en utilisant ces sciences comme support à l'apprentissage de la danse ? La réponse, être astucieux. Un de mes professeurs de droit avait l'habitude de dire qu'un juriste doit être paresseux, car la paresse rend astucieux. Utiliser astucieusement des connaissances est pour lui une grande qualité. Il en est de même pour le danseur ou le professeur de danse. Savoir par cœur les os plats, courts et longs, le nom de tous les muscles et leurs insertions est parfaitement inutile si un lien n'est pas fait avec son propre corps. Par contre, connaître quelques os clés, quelques principes fondamentaux de placement, permettra d'accélérer l'apprentissage de la danse et donnera au professeur des outils sur lesquels baser son enseignement. La connaissance et l'observation scientifique ne peuvent que renforcer l'intuition de l'enseignant. Un rien d'objectivité ne nuira aucunement à l'art de la danse, mais éclaircira certaines images du corps.
Vous avez deux représentations, schématisation du corps qu'on utilise beaucoup en analyse fonctionnelle. Celle de gauche représente une personne vue de profil. Je pourrais schématiser l'organisation corporelle en trois ballons, le ballon de la tête, le ballon de la cage thoracique, le ballon du bassin, qui sont reliés entre eux par une structure qui peut être à la fois stable et souple, la colonne vertébrale. On avait un bel exemple là chez notre ami squelette, hein, ouais, et qui se trouve au-dessus d'une base d'appui, les pieds posés sur le sol. Et quelque part, heureusement pour nous, entre cette base d'appui et ces trois ballons reliés par la colonne, il y a plusieurs degrés de liberté, on dirait en biomécanique. Hein. Il y a des articulations, la cheville, le genou, la hanche, notamment. Ça va ? Plus toutes les articulations du pied. Ce serait beaucoup plus simple pour notre système nerveux si nous étions comme un culbuto. C'est-à-dire si nous avions des jambes raides et juste une charnière de cheville. Ce serait beaucoup plus facile à piloter d'une certaine manière. Le fait qu'il y ait plus de degrés de liberté, c'est plus compliqué. Mais ça permet quand même de faire beaucoup plus de choses intéressantes. Okay ? Et du coup, ce qu'on voit, c'est que l'on soit le pendule, moi, même le micro de Caroline, il y a cette force qui nous traverse et qu'on ne peut pas nier, sur la Terre, qui est la force de gravité. C'est vrai que, par exemple, en danse contemporaine, on va beaucoup insister sur la perception de la gravité. Mais il y a d'autres esthétiques où on va peut-être donner à voir davantage la direction vers le ciel et l'élévation. Je parle par exemple de la danse classique. Mais oui, mais parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a cette fameuse troisième loi de Newton, les lois fondamentales de la mécanique, qu'on appelle la loi d'action-réaction. Si une force rencontre une surface, alors la surface réfléchit cette force et il se crée une force autre, une deuxième force, de même intensité mais de sens opposé. C'est le sens de la grosse flèche jaune qui est au-dessus du personnage, là, qu'on appelle la force de réaction du sol. Donc à tout moment, tant que mes pieds touchent le sol, je suis à la fois attiré vers le centre de la Terre par la force de gravité et à la fois attiré vers le ciel par la force de réaction du sol. C'est ce qu'Odile Rouquet appelle la double direction, par exemple. C'est-à-dire que quand je suis debout, je suis constamment en train de m'organiser autour d'une double direction, un pôle terre et un pôle ciel. Okay ? Et ça, Alexander l'avait vraiment compris. Il a mis un autre nom assez proche de ça. Il parlait de primary control, de contrôle primaire ou contrôle primordial, on dit plutôt aujourd'hui, qui parlait justement de cette capacité de la colonne vertébrale, notamment, de s'ajuster par rapport à la force de gravité et de s'ériger. Et rapidement à droite, je vous montre une autre façon de regarder le corps, on en parlera un petit peu plus cet après-midi, ça va être de distinguer les différentes fonctions du squelette ou les différentes fonctions du corps entre ce qui est rouge, qu'on appelle le squelette axial et qui va être plutôt responsable de notre verticalité, ce qui est bleu sur le personnage, qui sont les membres, on appelle ça le squelette appendiculaire et qui est plutôt du coup dans le squelette de la relation, j'ai envie de dire, surtout pour les bras, ouais. Et ce qui va faire le lien entre le squelette axial et les membres, et donc entre la verticalité et l'horizontalité, qui sont les ceintures, les anneaux des épaules et du bassin. Ouais. J'ai envie de vous proposer une exploration qui va être autour de deux choses, percevoir les forces qui nous traversent, et aussi percevoir son dos et se percevoir en volume, tout simplement.
Je connais certains professeurs auxquels le mot « placement » fait peur. Ils ont parfaitement raison si ce mot est synonyme de rigidité. Avoir un corps bien placé, c'est être disponible à bouger, à se mouvoir dans n'importe quelle direction selon les directives du mouvement. C'est tout le contraire de la rigidité. Placer en force un corps en tirant sur les ficelles que sont les muscles, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, ne sera qu'une apparence de bon placement. Pensons à la fable du chêne et du roseau. La kinésiologie, aujourd'hui AFCMD, qui est la science du mouvement, définit le corps humain comme un équilibre de forces. La pesanteur, la pression atmosphérique, les frottements sont autant de forces contrecarrées par la force musculaire. Équilibrer ces forces du dedans et du dehors, sans que l'une l'emporte sur l'autre, tout en sachant qu'elle change sans cesse, c'est cela le placement. S'agripper, ne pas laisser faire cet ajustement constant, est contraire aux lois du mouvement. Accepter de déraper, de glisser est le secret du bon placement.
Si je parle de colonne vertébrale, peut-être que ça renvoie à quelque chose de l'ordre de la stabilité, de la puissance, du maintien, peut-être un peu moins à quelque chose de l'ordre de la mobilité, de la sinuosité, de l'adaptabilité, vous voyez ? Plutôt que d'envisager les choses comme des postures, on va essayer de les envisager plutôt avec l'angle du mouvement. Ok ? Tout ce qui est figé n'est pas vraiment compatible avec la bonne santé. C'est ce que vont dire tous les somatiques. Et c'est aussi quelque chose qui physiologiquement a été démontré, c'est-à-dire qu'une articulation, pour qu'elle soit en bonne santé, elle a besoin d'aller dans les deux sens en respectant son amplitude, évidemment. Un muscle, pour qu'il soit en bonne santé, il a besoin d'alterner, si ça c'est un muscle, entre ces fibres qui s'allongent et ces fibres qui se raccourcissent. Si un muscle est maintenu tout le temps comme ça, il va souffrir en allongement. S'il est maintenu tout le temps en compression et en raccourcissement, il va souffrir aussi. C'est l'alternance, on va dire. L'alternance, c'est compatible avec la vie. Okay ? Le mouvement, l'aller-retour. Okay ? Et donc, justement, si au lieu d'une colonne vertébrale, on parlait d'un ressort vertébral ou d'une spirale vertébrale, ce serait un autre imaginaire, par exemple. Ou alors, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas trop les serpents, mais ce petit serpent-là, en fait, au final, il est construit comme une colonne, puisqu'il est fait de petites pièces mobiles les unes par rapport aux autres, exactement comme nos vertèbres. Vous voyez ? Donc on pourrait parler de serpent vertébral, de cours d'eau vertébral. Vous voyez les méandres d'une rivière, d'avion, ça va ? Alors on va faire une expérience avec notre partenaire de même hauteur encore. Et on va imaginer que ceci serait notre colonne vertébrale à l'intérieur de nous. La tête étant ma tête et le bout ici étant mon coccyx. Okay ? Et on va chercher à faire onduler cette colonne vertébrale latéralement. Comme on dit dans le plan frontal, en s'imaginant que c'est un peu comme le charmeur de serpent, vous voyez. Ça va pour l'imaginaire ? Donc, ce que je vous propose, vous allez vous mettre avec votre partenaire, vous allez vous asseoir dos à dos, en prenant bien tout l'espace, et je vais vous guider, ok ?
Alors moi, ça a été un peu comme toi, c'est-à-dire d'avoir quitté son partenaire en étant dos à dos. C'est vrai qu'on avait un appui qu'on n'a plus. Donc je me suis sentie un peu lourde. Par contre, après, j'ai trouvé que ça avait libéré de l'espace. C'est-à-dire que quand on a cette sensation, effectivement, au niveau de la colonne, quoi, qu'elle était vraiment là, c'est-à-dire la présence de mon dos, de la colonne. Quoi. Et où ça a été vraiment... clair pour moi, c'est quand on a repris la danse tous ensemble. C'est-à-dire que je me suis vraiment sentie connectée. Avec tous ces dos-là, en fait. C'est-à-dire la sensation d'avoir des vraies directions et de ne pas être perdu. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un lien.
Oui.
Voilà.
Ça permettait à tout le monde de fonctionner ensemble.
Ça libère de l'espace, en fait, dans la cage thoracique. En fait, ça a été vraiment ça. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être en lien. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... comme si tout le monde avait pris conscience de
sa verticalité, de son dos.
Donc en fait, on n'avait plus ce côté où parfois on était ballotté, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus, comme si on était emmenés tous dans quelque chose.
Je suis d'accord avec toi.
Oui, c'est cette sensation.
Là, j'ai bien aimé le côté de la colonne vertébrale, du ressort, de le trouver autrement. C'est quelque chose que je comprenais. Mais voilà, d'avoir mis un mot dessus, c'est quelque chose qui peut vraiment être très réutilisable avec les élèves et en termes de sensations. Je trouve que ça parle bien.
Oui, le serpent, là, j'ai bien aimé.
Oui, le serpent.
C'est chouette, ça. Puis l'impression que ça circule, c'est pas quelque chose qui est, comme il disait, de figé. C'est que ça circule à l'intérieur. Et même de le faire nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, ça.
Le mouvement, il est partout. Dans l'univers, par le fait de la gravitation... La Terre tourne autour du Soleil et donc nous avec elle. Il est à l'intérieur de notre corps. Nos reins filtrent 180 litres de liquide par jour. 15 000 à 20 000 litres de sang circulent en 24 heures dans nos poumons. Chaque jour, nous rejetons 500 litres de gaz carbonique. Autant de chiffres pour montrer le mouvement incessant dans notre corps, l'interconnexion entre tous ces différents éléments. Une image statique du corps ne correspondrait donc pas à la réalité. J'aime beaucoup la tapisserie de Jean Lursa, « L'homme en gloire dans la paix », enraciné dans l'univers, clignotant de toutes les étoiles du monde. Un danseur qui se représentera habité par ses lignes de force passera la rampe. On dira de lui qu'il a cette qualité ineffable de celui qui veut faire de la scène, cette notion d'être grand. Je prétends qu'on peut tout avoir, par exemple, de toutes petites jambes, et les faire paraître grandes et même immenses. Une jambe tronçonnée par de multiples tensions musculaires sera composée de zigs et de zags et ne dessinera pas une ligne unique et infinie. Par la capacité d'observer les blocages d'énergie, on pourra lire un corps sans pour autant connaître beaucoup d'anatomie. Par contre, l'étude de la kinésiologie, ou de la FCMD, permet de trouver d'où vient ce blocage. Dire, par exemple, à une élève de redresser sa voûte plantaire affaissée ne sera pas forcément la bonne solution. La traction musculaire supplémentaire, nécessaire pour la redresser, peut aboutir à une impossibilité totale de bouger. L'origine de cet affaissement proviendra souvent de plus haut, d'une mauvaise position du bassin par exemple. Il s'agit alors de trouver le zig qui corrigera le zag. Avoir en tête quelques principes clés facilitera la recherche des déséquilibres. Sans être exhaustif, les articles qui suivront tâcheront de mettre en valeur certaines notions indispensables à tout bon placement du corps, à savoir ouvrir les surfaces de base, volume et stabilité, localiser les articulations, connaissance des rouages, ne pas nier la pesanteur, force première nécessaire au mouvement, noyau solide, périphérie juteuse et moelleuse, solidité de l'axe par les muscles profonds. Et ce sont sur ces quatre notions que j'ai construit mes deux journées d'atelier.
Et pour terminer, on va placer une main au niveau du sacrum. Donc montrez à votre partenaire où c'est votre sacrum, parce que bon, hein, que ce soit... pas trop malaisant, hein, voilà, c'est où ? Vous mettez votre main là, une main au niveau du sacrum, une main au niveau du sternum, devant, ok ? Donc, mes mains, je le montre là sur le squelette, elles appuient pas sur le squelette, ok ? Elles ont un toucher plutôt léger, voire même, c'est pas tellement moi qui touche le squelette, enfin, mon partenaire plutôt, je me dis que c'est le sternum de mon partenaire et son sacrum qui me touchent. Okay. Je me laisse toucher par son sacrum et son sternum. Une main sacrum, une main sternum. Voilà, tout simple. Voilà. Et là, l'idée, c'est qu'à deux, on essaie de ressentir et visualiser cette diagonale dans l'épaisseur entre le sacrum qui est en bas et en arrière et le sternum qui est en haut et en avant. Ça fait comme une pente diagonale dans l'épaisseur, vous voyez ? Comment vous ressentez, comment vous la visualisez, cette épaisseur, ce volume entre l'arrière et l'avant ? À la fois la personne qui reçoit les mains, à la fois la personne qui pose les mains. Et aussi, est-ce que cette diagonale, elle est fixe ? Ou est-ce que vous sentez qu'elle bouge avec la respiration ? Est-ce que vous sentez les petites mobilités le long de cette diagonale dans l'épaisseur ? Pendant que la personne respire. Quand vous êtes bien au clair avec ça, si vous avez les yeux fermés, les personnes qui reçoivent les mains, essayez de les ouvrir et de vous dire, est-ce que je peux continuer à cultiver cette sensation de mon propre volume tout en voyant les autres autour, tout en tournant ma tête, en regardant le studio. Tiens, qui est-ce qui reçoit les mains ? Qui est-ce qui les pose ? Et de pouvoir être dans cette double attention. La perception de mon propre volume et de ma propre verticale et ce qui se passe autour de moi. Et puis les personnes qui ont les mains posées, vous allez enlever les mains et on va laisser les partenaires reprendre un tout petit peu l'improvisation précédente. Donc on leur laisse l'espace et vous reprenez l'improvisation précédente pour voir un petit peu, habiter de ces sensations-là. Est-ce que c'est différent ou pas ?
À nouveau, dans son texte, Odile Rouquet parle de connaître les rouages du corps. Et donc, cette connaissance des rouages, elle passe souvent par la connaissance de comment sont faites les articulations. Et donc, plutôt un travail sur comment est fait le squelette. Et donc, ce n'est pas une connaissance, j'ai envie de dire, purement livresque. En fait, ce qu'on cherche à faire en AFCMD, c'est arriver à une anatomie expérientielle, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre observer, comprendre comment sont faites les articulations et un travail d'exploration sensible des mobilités dans ces articulations. C'est ce qui permet justement de relier ce que l'on ressent avec ce que l'on se représente. Et pour moi, c'est aussi ce qui permet que les stagiaires, en fait, puissent me suivre dans les ateliers de pratique que je leur propose, puisque ces apports anatomiques permettent aussi une certaine autonomie, en fait, dans la compréhension de ce qui est en jeu au moment où je propose un atelier plus perceptif.
C'est des petites choses expliquées simplement, mais montrées, et après le fait qu'on passe à la pratique là, sur ce ballon un peu dégonflé, où tout de suite on sent, et enfin, moi je me suis dit, ah, en fait, rien qu'en posant ma tête, j'ai commencé à les faire le oui et le non naturellement, et donc je me suis dit, bah, c'est là qu'on va aller en fait. Donc, non, non, ça, oui, c'est évident. Avec des ados, ça marche. Ouais.
Et puis on se sert aussi d'objets, de gadgets qui vont concrétiser, à la fois concrétiser en fait ce sur quoi on est en train de travailler, mais aussi ouvrir l'imaginaire. C'est le cas par exemple quand j'ai utilisé une sorte de serpent articulé en bois pour faire travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale et qu'on s'est questionné tous ensemble sur ce que le mot colonne véhicule, notamment en termes de stabilité, de solidité et peut-être un peu de rigidité. Là où l'imaginaire d'un serpent articulé, d'une chaîne avec des maillons, d'un ruban vertébral ou même d'un cours d'eau vertébral, peut-être peut amener à aller rechercher davantage la sensation de mobilité, d'ondulation par exemple de la colonne vertébrale dans le mouvement. Un autre enjeu du travail en AFCMD, c'est de venir interroger nos habitudes de perception, nos habitudes perceptives. En tant que danseur, danseuse, praticien du mouvement en général, on est assez au fait que l'on a des habitudes coordinatives. Par exemple, moi, si je vais prendre un cours de flamenco, au départ, ça va être assez compliqué parce que ce ne sont pas des coordinations que je pratique habituellement. Et même si je vais apprendre plus vite que quelqu'un qui débute dans le mouvement, la première séance, je vais dépenser beaucoup d'énergie, elle va demander beaucoup de concentration, etc.
Moi, je trouve que quand on a fait l'exercice avec le ballon et allongé sur le sol, là, quand on enlève le ballon, moi, j'ai ressenti là, se sentir plein. En fait, quand on a l'impression qu'on a les fesses qui s'écrasent, là, qui s'étalent, c'est comme si tout d'un coup, il y avait plus de points de contact entre le sacrum et le sol. Et pareil pour la tête, et comme une sorte de pression, en fait. C'était pas la même pression qu'au tout départ, avant l'exercice avec le ballon. C'est ce que j'ai ressenti.
Comme si on laissait l'empreinte.
Oui, plus.
Quand on laisse une empreinte dans le sable, par exemple, elle serait plus présente après le ballon.
Oui, il y a comme un lâcher aussi.
Il y a un lâcher, il y a un déposé, en fait.
Le
corps se dépose, en fait, dans le sol ou sur le tapis. Hein. Une sorte d'abandon aussi, peut-être.
Mais ce que l'on a moins à l'esprit, c'est que ces habitudes coordinatives, elles reposent en fait beaucoup sur des habitudes perceptives, puisque percevoir, quelque part, c'est déjà agir. C'est ce qu'on va retrouver à la fois dans le body-mind centering, mais aussi dans des travaux de scientifiques comme Alain Berthoz. Nos capteurs sensoriels sont prédictifs. Donc percevoir, finalement, c'est déjà orienter nos capteurs sensoriels d'une certaine manière. Et donc, un des enjeux des ateliers perceptifs va être de créer un contexte, créer des situations qui vont permettre de venir interroger nos habitudes perceptives, créer un contexte dans lequel je vais percevoir un peu autrement, un peu différemment. Et ça peut passer, par exemple, par l'utilisation d'objets. Par exemple, lorsqu'on a placé un ballon paille peu gonflé sous l'appui de la tête, en fait, ça crée un léger déséquilibre de la tête au sommet de la colonne vertébrale. Et ce déséquilibre est suffisant pour venir interroger justement la tonicité des petits muscles sous-occipitaux qui relient l'os occipital du crâne aux deux premières vertèbres cervicales. Et en même temps, il n'est pas trop important pour ne pas que le corps se mette dans un mécanisme de défense et que les muscles superficiels se contractent pour protéger les articulations. Donc c'est une histoire de savant dosage. Donc les objets peuvent permettre justement de convoquer un autre imaginaire, ils peuvent permettre de créer ces situations finalement d'apprentissage et d'exploration, et ils peuvent aussi permettre de jouer le rôle de transition. Par exemple, si c'est compliqué à deux de se toucher directement, on peut utiliser un objet, on va dire, transitionnel, intermédiaire, comme une balle ou une frite, où du coup il y aura moins cette problématique du contact direct des mains, par exemple, sur le corps de l'autre.
Moi, dans le primaire, il y a moins d'inhibition, donc les enfants sont quand même... Et l'utilisation d'un outil, d'un médiateur comme le ballon dégonflé peut aussi être un très bon outil. Et je pense qu'ils peuvent se l'approprier plus facilement et faire tomber, là encore, les barrières. Donc ça peut être une porte d'entrée vers le mouvement dansé.
Oui, en primaire, c'est plus facile à aborder parce qu'ils n'ont pas les inhibitions. À partir du collège, c'est plus compliqué. Cependant, si ça devient quelque chose, enfin pour moi ça me paraît très essentiel, mais si c'est quelque chose que tu installes en primaire, il n'y aurait plus lieu de trouver ça bizarre, en fait, quand on est plus grand.
Mais à l'adolescence, le corps, il se transforme tellement. On a la sensation de plus appartenir à notre corps, d'être dépossédé aussi, parfois, hein, pour certains.
Pour le coup, ça, avec des ados, ça marche. Parce que quand on apporte l'objet concret et qu'on explique, enfin, et qu'après, on va faire sentir,
oui.
Pour moi, à mon sens, ça passe.
Ça marche.
Ouais. Bien
sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Même avec des classes difficiles.
Oui.
Le travail par partenaire... en duo notamment, est aussi un autre élément essentiel de ce travail sur la perception. On sait qu'aujourd'hui que le toucher est le premier sens qui se développe au moment du développement de l'embryon dans la vie intra-utérine. Et ce sens du toucher reste une voie pour informer le système nerveux de façon très directe et très efficace. Et on ne va pas non plus toucher de la même manière en fonction de ce que l'on recherche. Par exemple, dans la première séance, j'ai proposé un travail en binôme qui alternait des temps où on faisait des petites percussions sur les os, à certains endroits ciblés du corps, et des temps où on était davantage sur un massage ou un pressage des muscles superficiels. En fait, ces deux expériences, elles ont pour but de permettre d'éveiller la musculature posturale, la musculature profonde, celle qui est chargée de nous tenir debout, et au contraire de détendre la musculature superficielle, qui, elle, normalement, est faite pour nous mettre en mouvement. Un autre aspect du travail à deux, avec un ou plusieurs partenaires hein, d'ailleurs, c'est tout le travail sur l'observation. À plusieurs reprises dans les séances, on propose de séparer le groupe en deux sous-groupes, et qu'un groupe continue notamment une improvisation, par exemple, pendant que les autres ont à charge d'observer un partenaire précis dans le groupe. Puisqu'en fait, en AFCMD, on cherche aussi à entraîner la lecture du corps en mouvement. Et il n'y a rien de plus compliqué que d'observer et de lire un corps en mouvement, parce qu'il y a énormément d'informations. Et le travail en AFCMD permet aussi de donner des supports pour l'observation du corps de l'autre en mouvement, notamment parce qu'on va regarder chez l'autre quelque chose qu'on vient juste d'expérimenter dans son propre corps. Et quelque part aussi, quand on observe un corps en mouvement, on n'est jamais neutre. On observe toujours à partir de qui on est. Et donc si on est d'accord aussi, si on a eu la même expérience, notamment, je ne sais pas, de la mobilité de la colonne vertébrale, du travail sur la vision fovéale ou périphérique, etc., eh bien quand on va observer l'autre en mouvement, on sait aussi sur quoi on va poser nos yeux.
On va venir alors au niveau du bras, et on va juste presser comme ça le bras, la chair du bras. Et vous faites bien qu'un seul bras d'abord.
D'accord.
Et alors l'autre personne, vous essayez de sentir votre bras comme un pendule, voilà, vous le tenez pas, vous dites, bah, okay, voilà, qu'est-ce que ça fait, quoi. Hein? Et donc je tire pas vers le bas, je presse. Tout ça. Et vous discutez, hein, c'est trop fort, c'est pas assez fort. Okay. Oui, la main aussi. Ça va? Puis vous laissez la personne respirer deux secondes, hein, jusqu'elle voit un peu, est-ce que c'est les deux mêmes bras, quoi, dans la perception ou pas. Pour l'instant, un, vous la laissez un peu comparer, vous pouvez même la regarder un peu. Parce que ta partenaire de face, c'est pas mal, hein, la différence. Puis après, vous faites l'autre.
Dans son livre La tête aux pieds, Odile Rouquet explique bien que pour qu'il y ait une possibilité de constater les modulations toniques, les changements perceptifs qui se produisent lors d'ateliers, il est important de procéder un peu dans l'avant-après. C'est-à-dire, on va faire par exemple un seul côté du corps, par exemple un seul bras ou une seule jambe, et on va d'abord comparer la sensation entre les deux côtés du corps avant de faire l'autre côté. D'une part, ça permet de prendre conscience de ce qui s'est transformé, et d'autre part, ça permet aussi d'enclencher un processus d'apprentissage de la part des participants dans l'idée qu'au bout d'un moment, ces changements perceptifs peuvent à terme s'intégrer et qu'on ne soit pas simplement dans le constat qu'il y a un bien-être global ou quelque chose comme ça, mais qu'on puisse ensuite chercher à l'appliquer dans le mouvement dansé.
Bien, et puis tu vas retrouver ton partenaire de ce matin. C'est avec qui que tu as travaillé ce matin, que tu as regardé C'est bon, vous avez retrouvé? Ok, et chaque duo, vous allez venir chercher un petit masque. La personne qui n'est pas masquée, vous allez commencer par venir au niveau du bras de l'autre et un peu glisser vos mains sur un bras comme ça jusqu'à la main, quelques fois. Sans tirer vers le bas, juste je glisse un petit peu mes mains. Puis je prends un peu sa main et voilà, je peux un peu masser un peu sa main. Puis cette main que vous êtes en train de masser, vous allez la placer quelque part sur vous. De façon à pouvoir emmener l'autre personne tranquillement dans le studio. Donc c'est pas vous qui lui tenez la main, hein. Vous avez choisi un endroit de votre corps pour qu'elle puisse poser sa main et que vous puissiez la guider. Il y a pas mal de bruit avec le parquet, hein. Donc on se dit qu'on essaye de communiquer que par le toucher, sauf s'il y a un danger. S'il y a un danger, je peux dire stop ou attention, ok ? Mais sinon, on essaie de communiquer uniquement par le contact. Parce qu'il y a trop de son sinon, là, avec le sol. Hein ? Ok ? Et que je puisse aussi vous donner des consignes. Hein. Donc, petit à petit, si vous sentez que la confiance s'installe, vous pouvez essayer des choses. Vous pouvez aller peut-être un peu plus vite. Légèrement, vous pouvez peut-être aller en arrière ou sur le côté. Essayez de sentir qu'est-ce qui est possible.
Travailler avec un partenaire pour recevoir et proposer des exercices, visualisation chez l'autre des changements qui s'opèrent, utilisation du toucher de différentes manières en fonction des objectifs, évaluation des modulations liées à une pratique dans son propre corps, utilisation d'objets pour modifier les perceptions et faciliter les expérimentations, intégration de notions de base en anatomie, en biomécanique. Tous ces principes de la FCMD et des éducations somatiques permettent à chacune et chacun de mêler théorie et pratique, afin de favoriser la redécouverte des territoires sensibles du corps. Mais comment justement se fait le lien avec le mouvement dansé et les esthétiques chorégraphiques ? Quelles sont les propositions à concevoir pour que ces connaissances scientifiques et ces explorations en atelier permettent aux danseuses et danseurs, amateurs et professionnels, d'enrichir leurs propositions chorégraphiques ?
Une autre chose sur laquelle insiste beaucoup Odile Rouquet, c'est la question de partir du mouvement dansé et de revenir au mouvement dansé. Par exemple, lorsqu'on a fait un travail à deux, dos à dos, on a constaté ensuite, quand on s'est séparé, qu'il y avait une présence beaucoup plus concrète de toute la surface du dos, qui est une surface qu'on ne peut pas voir et donc pour laquelle on a souvent des difficultés à se la représenter, à la ressentir. Et donc la question c'est, dans quel contexte danser est-ce qu'on peut mettre cette nouvelle sensation à profit ? Et c'est pour ça que j'ai proposé avant et après cette expérience une danse en cercle, inspirée d'un cercle circassien, puisque dans le phénomène du cercle où on est tous face à un centre commun, eh bien, généralement est beaucoup présent l'avant du corps, dû notamment au regard sur les autres, aux relations entre les uns et les autres, et l'arrière du corps, le dos, est assez absent de nos perceptions à l'instant T. Et donc je trouvais intéressant de proposer aux stagiaires de revenir à cette danse en cercle une fois qu'on avait éveillé cette présence de l'arrière et du dos et de constater qu'est-ce que ça change dans cette danse collective. Une autre entrée qui peut justement permettre de rendre ce lien très concret en AFCMD, c'est d'aller chercher des ressources dans la culture chorégraphique. Et c'est pour cela que le deuxième jour, j'ai souhaité proposer aux participants une exploration en lien à la pièce « Set and Reset » de Trisha Brown, une pièce de 1982-83, dans laquelle il y a ce mouvement caractéristique de balancer des bras, du swing des bras, et qui nous a permis justement tout un travail autour de l'articulation des épaules, de la ceinture scapulaire, pour rechercher ce mouvement pendulaire du bras si caractéristique dans cette danse. Alors, on n'a pas dansé la chorégraphie Set and Reset, mais par contre, chacun et chacune a pu s'approprier cet élan premier du balancer des bras qui est venu nourrir son improvisation, et ensuite on a regardé un extrait de la chorégraphie. Et il y a eu la remarque d'un stagiaire notamment qui a dit qu'il comprenait mieux la chorégraphie de Trisha Brown après avoir dans son propre corps exploré cet élan premier finalement du balancer des bras. Ce lien avec la danse fait vraiment partie de la démarche en AFCMD.
Et pour conclure ce podcast, quelques conseils de lecture pour approfondir davantage ses connaissances en AFCMD et en éducation somatique.
Dans un registre pédagogique, je vous propose les deux ouvrages d'Odile Rouquet, « Les techniques d'analyse du mouvement et le danseur » et « La tête aux pieds » que vous pouvez retrouver sur le site de Recherche en mouvement. Dans un registre plus philosophique, le livre de Christine Roquet, « Vue du geste, interpréter le mouvement dansé » aux éditions du CND. Sans oublier le tout nouvel ouvrage collectif « Au cœur du geste, l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé » sous la direction de Nicolas Arbonnier, Emmanuel Lyon et Valentine Villemier aux éditions Ressouvenance.
Fluidité.
Se sentir plein. Être prêt à. Prêt à bis.
Écoute.
Disponibilité. Confiance. Présence.
Connexion. Lâcher prise.
Le pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle Préac Danse Nouvelle-Aquitaine, dont les partenaires membres du comité de pilotage sont les délégations académiques à l'action culturelle, Bordeaux, Limoges, Poitiers, les directions régionales des affaires culturelles, Bordeaux, Limoges, Poitiers, le centre d'animation de Beaulieu, le centre chorégraphique national Malandin-Ballet-Biarritz, la manufacture, centre de développement chorégraphique national Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, La Rochelle, Mille Plateaux, centre chorégraphique national La Rochelle et l'Opéra de Limoges, ont proposé une expérimentation qui a pour enjeu, par son format nomade, de mobiliser et de renforcer l'écosystème des acteurs de la danse en Nouvelle-Aquitaine. Le Préac Danse Nomade s'engage à créer des liens, à proposer des formations et fournir des ressources, outils pour tous les acteurs de l'éducation artistique et culturelle. La première formation intitulée « Redécouvrir les territoires sensibles du corps », adossée à la 30e édition du Festival Accord, s'est déroulée à Poitiers du 4 au 6 avril 2024. Elle a été pilotée par les membres du comité technique de Poitiers, le centre d'animation de Beaulieu, la délégation académique à l'action culturelle Poitiers, la manufacture, centre de développement chorégraphique Nouvelle-Aquitaine, le pôle Aliénor, le TAP, scène nationale de Grand Poitiers et l'université de Poitiers. Et a été financée par le ministère de la Culture, la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle du Conservatoire national des arts et métiers, la délégation académique à l'action culturelle Poitiers et la direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine. Ce podcast, Territoires sensibles du corps, AFCMD et éducation somatique, est une production de Inouï, le podcast qui documente la création. Conception, prise de son et voix off, Caroline Borda. Création musicale originale, Marius Mielkarek.